Europe 1, la vie devant soi. Isabelle Quenin.
Bonjour et bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Comme tous les après-midi, nous allons passer une heure ensemble avec bien sûr tous vos rendez-vous. Et aujourd'hui, température polaire oblige, nous allons parler de développement personnel, d'exploits et de froid extrême. Le 7 février dernier, en se roulant en maillot de bain dans la neige sous la Tour Eiffel, un homme avait fait sensation. Alors c'était pas pour faire le buzz, même si ça l'a fait, c'était pour prouver que l'on peut s'habituer aux températures extrêmes et que le froid peut devenir notre allié. C'est une question de mental, surtout de respiration et bien évidemment encore plus d'entraînement. L'homme de la Tour Eiffel est avec nous cet après-midi. Il s'appelle Jean-François Tual. Avec lui, Anaëlle Gombert. Les deux ont suivi les stages de celui qu'on appelle Iceman, le Hollandais, l'homme qui illustre à lui seul les vertus insoupçonnées du froid. À l'affiche également, et bien au chaud avec nous en studio, Elisabeth Assayag tout à l'heure avec son À la Une qui nous parlera de sport, la différence entre hommes et femmes en termes d'heures d'activité physique se réduit de plus en plus. Et on terminera l'émission avec Anne Cazobon qui porte un magnifique t-shirt sur lequel il y a marqué en gros bienveillance. C'est donc la qualité du jour, Anne.
Oui, je joue les femmes sandwich avec ce pull de circonstance pour illustrer la chronique du jour. Tout ce que j'admire chez l'autre ou tout ce qui m'énerve chez l'autre n'est en fait qu'un miroir de ce que j'ai à l'intérieur de moi mais qui ne s'est pas encore révélé.
Alors vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur europe1.fr en live ou encore en podcast, vos réactions sur les réseaux sociaux avec le hashtag LVDS ou encore sur Facebook, La Vie Devant Soi du mardi. C'est parti.
La Vie Devant Soi sur Europe 1.
Et comme tous les après-midi, on commence par le À la Une avec Elisabeth Assayag. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Isabelle, bonjour chers auditeurs.
Alors, question, les femmes font-elles autant ou plus de sport que les hommes? C'est ce que vient de démontrer une vaste enquête Ipsos pour la Fédération française d'éducation physique. L'écart en matière de pratique sportive entre les hommes et les femmes se réduit d'année en année. On devient aussi accro qu'eux.
Mais oui, et je commence par ce chiffre.
Accroquer, c'est bien, ça fait un peu accroquer.
Et d'ailleurs, je commence par un chiffre. En 2018, les femmes font seulement 42 minutes de sport en moins que les hommes par semaine. Alors, quand j'ai lu ce chiffre, je me suis dit, bon, et alors? Pourtant, c'est un écart qui se réduit d'année en année. Les femmes pratiquent en moyenne 3 heures de sport par semaine et les hommes 3h42. L'an dernier, les hommes pratiquaient 1 heure et 6 minutes de plus que les femmes. Et tout ça est loin d'être anecdotique.
Moi, je trouve qu'on peut dire qu'elles ont énormément de mérite parce que c'est pas toujours simple pour les femmes quand elles doivent concilier vie de famille, vie professionnelle et activité sportive.
Mais oui, et cela montre que les femmes font de moins en moins l'impasse sur leur forme physique, c'est ça la nouveauté et c'est cela qui évolue d'année en année. Bon, c'est pas encore gagné dans toutes les régions, car par exemple il n'y a quasiment pas d'écart entre les femmes et les hommes en région parisienne, mais en Normandie, il y a quasiment 2h30 de différence. Mais justement, et c'est ça qui change chaque année, faire du sport aujourd'hui, ça fait partie en quelque sorte du package pour garder son rythme entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Tiens Isabelle, allez, je vous laisse deviner qui a pu me dire cela.
Facile, c'était Véronique et Davina. Non, bah, elles sont incroyables. Véronique de Villèle, elle est incroyable.
Et oui, et je l'ai appelée justement Véronique de Villèle parce qu'elle a cette expérience. Elle a plus de 30 ans d'expérience et elle me l'a confirmé. Chaque année, il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent dans des cours avec en tête des inscriptions le yoga, la barre au sol. Elle dit, je la cite, la gym remplace les médicaments.
C'est un médicament à tout point de vue. Une mère de famille sera plus aimable et plus bienveillante avec ses enfants et son mari le soir. Si elle a fait du sport, elle se sentira mieux. Elle se sentira mieux avec ses amis. Elle sera plus disponible que quelqu'un qui est aigri, qui ne bouge pas, qui prend du poids, qui se regarde dans la glace et qui ne s'aime pas. C'est un ensemble de choses. Le sport, on sait aujourd'hui, en 2018, que c'est vital pour la santé et surtout pour la tête. Si on dit ça, c'est parce que je pense qu'on dit que les femmes ont moins de temps. Évidemment, les femmes, elles ont moins de temps. Un, elles travaillent. Deux, elles gèrent une maison. Trois, elles ont les sorties d'école avec les enfants. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, on ne devrait même pas parler de cette différence. Il n'y a qu'à regarder les clubs de sport. Il y a une majorité de femmes. C'est impressionnant. Et de plus en plus, les femmes sont sur les tapis de course, elles sont sur les vélos, elles font des cours très toniques, elles font du pilates. Il y a une quantité de choses qu'on met maintenant à la disposition des gens. C'est impossible de le contourner. Impossible.
En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que la sédentarité ne passera jamais par elle. Merci Elisabeth, on se retrouve demain pour un nouveau à la une. Dans un instant, avec nos invités, on va apprendre toutes les vertus du froid. Vous allez découvrir deux personnes absolument extraordinaires qui sont capables de nager et de courir quand les températures avoisinent zéro. Mais quel est l'intérêt? C'est ce qu'elles vont nous expliquer.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Je pense que vous avez tous compris que nous allons parler du froid. Le froid avec en plus le vent que l'on entend et qui multiplie le ressenti du froid. Bref, quand il y a du vent, il fait encore plus froid. Mais cet après-midi, on va parler des vertus insoupçonnées du froid. Alors les athlètes le savent, hein, le froid favorise la récupération après l'effort, après la compétition. Le froid booste le système cardiovasculaire. Et on va voir avec nos invités que le froid peut aussi devenir un chemin de développement personnel. On reçoit cet après-midi deux adeptes du froid, du grand froid, Ananaël Gombert et Jean-François Tual. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, pour vous, et pour qu'on comprenne bien, pour vous Jean-François, vous avez trouvé la solution à ce que connaissent tous les pères de famille nombreuses, vous avez trois enfants. La salle de bain, vous n'y allez même plus, puisque vous avez installé un congélateur dans votre jardin. Donc, le congélateur pour les glaçons, de l'eau, un tuyau, et matin et soir, douche, immersion dans de l'eau gelée, hiver comme été. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que c'est quand même bien une petite douche chaude, non?
Alors là, effectivement, c'est mal parti pour défendre mon état de salubrité mentale, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça se comprend tout à fait. C'est-à-dire que je décide de m'exposer au froid tous les matins et tous les soirs pour en tirer les bénéfices que ça me procure. Donc le matin, effectivement, je m'accorde cette espèce d'espace méditatif dans mon congélateur d'eau glacée. Donc j'ai, oui, dans mon jardin, j'ai un congélateur que j'ai jointé, que j'ai rempli d'eau.
Vous rentrez dans le congélateur?
Alors je le débranche avant, hein. C'est vrai qu'il y a des auditeurs qui ont l'idée de faire la même chose. Oui. Commencez par ça. Et donc oui, je casse la glace qui s'est formée au cours de la nuit, s'il y en a. Et donc je m'immerge dedans et ça me permet de rentrer dans cette espèce de bulle qui de prime abord peut sembler extrêmement anxiogène ou agressive quand on n'en a pas l'habitude, mais qui avant tout est un espace de sensation où tout est démultiplié et où on se... Voilà, moi j'en viens à me lever dans ce froid et avoir cette espèce d'espace dans lequel mon esprit se calme, mon esprit se centre et dans lequel je suis vraiment au contact de ce qui se passe dans mon corps, de mes émotions, juste parce que sinon la sanction serait implacable. Donc par la force des choses, j'en viens à me donner cette espèce d'espace méditatif qui, pour un, on va dire, un surexcité comme moi, est en dehors de ça assez dur à attraper.
Juste pour qu'on comprenne bien, vous rentrez dans le congélo et vous refermez le couvercle. Moi, je pensais que vous aviez la tête dehors quand même.
Ah non, alors ça, je ne fais pas ça. Donc, ce n'est pas un cercueil, hein, c'est un congélo. Non,
ça aurait pu être une sorte de caisson avec 30 cm d'eau, enfin d'air en haut pour conserver. Non, c'est en
alors,
fait vous.
Alors, c'est vrai. Non, au contraire, ma femme a beaucoup insisté au début pour justement tester la fiabilité des vérins qu'il y a sur le congélo, histoire qu'ils n'arrivent pas à me retomber sur la tronche et que je m'évanouisse dans le bain. Donc, non, c'est moins difficile que ça. Donc, c'est un congélateur qui est ouvert, il y a de quoi m'immerger jusqu'au cou dedans et je garde voilà, la tête en dehors, je peux
un
regarder le paysage.
Glacial.
C'est un caisson glacial, c'est ça.
Alors tout a commencé pour vous, on va faire un bref retour en arrière, c'est pas très loin. Vous avez 40 ans, on est le 1er janvier 2017, vous dites que vous trouviez que votre vie quotidienne manquait un peu de relief. Vous vous lancez 10 défis et pour vous obliger à les faire, ces 10 défis, vous les avez mis sur Facebook.
Ouais,
le 10e de ces défis, c'est celui qui nous interroge aujourd'hui. Le 10e, c'est s'immerger une minute dans de l'eau à 0 degré. Alors vous dites que vous n'avez pas fait tous les défis précédemment, auxquels vous aviez réfléchi.
Certains, voilà. J'ai misérablement échoué à certains, mais pas à tous.
Ce défi-là, vous dites, il a bouleversé votre vie. C'était votre première rencontre avec le froid?
C'était ma première rencontre avec le froid extrême. Et donc, je venais y chercher, je ne sais pas trop quoi. Voilà, comme vous le dites, je vous l'avais bien dit, j'étais en une sorte de crise de la quarantaine, qui ne s'est pas manifestée par l'achat d'une voiture de sport, mais dans mon cas, par l'envie de me lancer ces défis-là.
Vous étiez, on dit que c'est le 1er janvier et que le 31 décembre, on peut quand même dire, d'ailleurs, vous l'avez mis en toute transparence, vous aviez un peu picolé la veille.
Ouais, d'accord. J'étais en état assez avancé. Je terminais les bouteilles, il était 3h du matin. Je me suis dit, la bonne idée brillantissime que je vais avoir maintenant, c'est de me donner ces 10 défis et surtout de les publier sur Facebook, histoire de bien attraper quand je reviendrai à mon état de sobriété naturelle le lendemain.
Vous dites que ça a bouleversé votre vie, pourquoi?
Oui. Parce que j'ai mis le doigt dans un engrenage qui m'a amené à tout d'abord voir les transformations qui s'opéraient sur moi en termes de vitalité, d'énergie disponible, de rapport à mon corps. Et puis, pas à pas, au fur et à mesure que j'ai commencé à considérer le froid, non pas juste pour sa seule dimension physiologique, genre il faut résister au froid, on est plus solide, on est plus gaillard et tout va mieux, mais j'ai commencé à l'utiliser comme un espèce d'outil métaphorique qui me permettait de comprendre énormément de choses sur la façon dont je menais ma vie, sur la façon dont j'étais disponible à mes propres émotions, sur la façon dont j'étais en connexion ou pas avec mon corps. J'ai commencé à en faire un outil de développement personnel qui, en tant que coach, est l'outil le plus puissant et le plus rapide qui m'était donné de trouver pour apprendre des choses sur soi-même et sur la vie en général. On comprend tout face à la sanction implacable du froid extrême. Quand on parle de lâcher prise, on peut en parler pendant des années et des années et on peut gloser dessus sans finalement rien avoir compris à la réalité de ce phénomène. Quand on le teste dans le froid extrême et qu'on sent qu'à l'instant où on ne lâche pas prise, on se tend et la sanction en termes de douleur devient insupportable, on dispose d'un outil de feedback qui nous indique très clairement si on est en maîtrise de cette notion de lâcher prise ou pas. Donc j'ai procédé étape par étape pour justement découvrir qui j'étais, ce que je pouvais comprendre de moi-même, comment améliorer ma vie en utilisant cet outil, tout simplement.
Alors, on va parler bien sûr de cette méthode, de ces méthodes, et vous allez nous parler de votre expérience. Anaëlle, vous, quelle a été votre rencontre avec le froid? Ce qui est drôle, c'est que vous expliquez qu'avant, vous étiez plutôt, je dirais classique, une fille frileuse.
J'étais plutôt frileuse, oui, la tendance à toujours me couvrir quand je sortais, quand je changeais d'environnement finalement thermique. Donc j'étais quelqu'un de plutôt frileux et j'ai commencé frileusement, on peut dire, mes expositions au froid, c'est-à-dire de façon très simple, comme beaucoup de gens finalement, en prenant des petites douches froides, donc en terminant mes douches à l'eau froide petit à petit. Ça, j'ai fait ça pendant un petit moment, avant de me lancer moi aussi dans mon premier bain glacé.
Alors vous avez été, ça me fait beaucoup rire parce que vous n'avez pas fait le caisson, enfin le congélateur
dans
le jardin.
Non, j'ai jamais fait le congélateur dans le jardin.
Vous avez commencé beaucoup plus prosaïquement, mais beaucoup plus facilement, par une bassine remplie de glaçons dans laquelle vous avez commencé par immerger vos mains.
Les mains et les pieds.
Et les pieds.
Oui.
Et déjà, en faisant ça, qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi le bénéfice en fait?
Déjà, en faisant ça, on ressent effectivement ce calme que décrit Jean-François, qu'on va peut-être ressentir de façon encore plus forte quand on immerge tout le corps dans l'eau glacée. Mais déjà, quand on met les mains, les pieds, on a tous ces messages de douleur finalement qui nous arrivent très très vite quand l'eau est très froide. Et donc on est obligé d'apprendre à lâcher prise dans la douleur, à se détendre. Et on a cet effet de vraiment de pensée qui se calme très très vite.
Ce qu'on ressent, c'est de la douleur, ou ce qu'on ressent, c'est peut-être l'image que, enfin, ou le cliché qui voudrait que le froid nous engourdit. C'est-à-dire que vous mettez vos pieds dans une bassine pleine de glaçons, ça fait affreusement mal, et est-ce que ça s'engourdit ou est-ce que ça continue de faire très mal?
Non, ça s'apaise au bout d'un moment.
En fait, c'est l'engourdissement qui s'installe. On sent plus ses pieds. On les sent.
On continue à les sentir, mais on peut sentir. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au tout départ, on va sentir comme des aiguilles en fait qui viennent se planter dans la peau. Donc ça, c'est le message un peu de douleur qui arrive au début quand on n'est pas habitué à ces expositions au froid. Et puis à un moment, en fait, il y a un mécanisme de survie qui se met en place. Le froid est vraiment interprété de façon différente par le corps. À un moment, tout s'apaise. Et là, on peut sentir au contraire une forte chaleur. À l'intérieur des parties exposées.
Alors après,
ça devient très agréable.
Après cette première rencontre, tous les deux, donc le congélateur et la bassine, vous avez continué. Vous vous êtes inscrit, vous avez fait un stage avec Wim Hof, celui qu'on appelle Iceman. Alors juste pour vous présenter le personnage, c'est un homme qui, c'est un parcours un peu hallucinant. Par exemple, il a tenté en 2007 l'ascension de l'Everest, 8800 et quelques mètres d'altitude, en short et en tongs. Il a juste lâché à 7400 mètres d'altitude parce que ses orteils étaient en train de geler. Pas grave. Deux ans plus tard, il récidive avec le Kilimandjaro. Cette fois-ci, il a réussi. Le Kilimandjaro, c'est 5800 et quelques mètres. Il a réussi. Il est toujours en short et en tongs. Et vous avez décidé, tous les deux, d'aller faire un stage chez lui. Vous allez tout nous raconter.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
On retrouve nos deux invités, Anaëlle Gombert et Jean-François Tual. Tous les deux, vous avez décidé d'ailleurs de faire du froid maintenant votre activité, puisque c'est la méthode de gestion du froid que vous utilisez en tant que coach. Vous avez décidé à un moment... Alors vous ne vous connaissiez pas. En fait, vous avez fait connaissance lors de votre dernier stage que vous avez fait ensemble chez Wim Hof. Dernier stage parce que avant il y en a eu d'autres. Anaëlle Gombert, qu'est-ce qui vous a poussé à vous inscrire pour aller faire un stage chez Iceman?
Alors moi, ma première rencontre entre guillemets avec The Iceman, c'était un podcast d'un Américain qui invitait ce personnage en fait. Et dans ce podcast, j'ai réalisé plusieurs choses. qui m'ont vraiment intriguée, c'est la première chose, c'est qu'il y a des gens qui aiment le froid. Ça, je me suis dit waouh. À l'époque, j'aimais pas le froid. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa, une vie où on n'a pas tout le temps peur du froid, où finalement on peut aimer cette force. Et il le partageait avec un tel enthousiasme que je me suis dit tiens, ça peut être sympa d'aller explorer ça. Et puis il y avait aussi tout l'aspect, toute l'influence que cette personne a sur son système nerveux autonome, sur son système immunitaire, sur son système endocrinien. En fait, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé, alors qui pendant très longtemps a fait ses propres expériences, a observé ce qui se passait dans son corps, a vu les effets, et puis qui a commencé, surtout à partir de 2011, à travailler beaucoup avec des scientifiques, avec des chercheurs, aux Pays-Bas, puisqu'il est originaire des Pays-Bas, également beaucoup à Stanford aux États-Unis dernièrement, et dans plusieurs universités à travers le monde. Et qui a réussi à prouver tout un tas de choses, en fait, et à montrer qu'on pouvait avoir une influence sur certains aspects physiologiques sur lesquels, a priori, on ne pouvait pas avoir d'influence.
Il est la preuve vivante qu'en fait, il y a un lien total entre l'esprit et le corps.
Oui, tout à fait.
Et pour lui, alors, Jean-François, l'histoire, elle a commencé en 1979. Il est à Amsterdam, il se balade, on est en plein hiver, les canaux sont quasiment gelés, et à ce moment-là, il décide de sauter dedans.
Oui, je crois que ça, c'est vraiment typiquement Wim. C'est-à-dire que voilà, il a senti l'appel, il a été habité. Wim, il a quand même cette dimension mystique. Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu parler de lui ou que je l'ai vu, j'ai trouvé, qu'est-ce que ce Hollandais à moitié fou, furieux, qui se jette dans la glace, qui multiplie le record du monde. Mais il y avait ce côté profondément habité par, je dirais, par sa mission, qui est vraiment de se faire réaliser aux gens que leur potentiel est bien plus important que ce qu'ils imaginent. C'est-à-dire que on sait tous, c'est devenu un petit peu un cliché de dire qu'on n'exploite pas tout le potentiel de notre cerveau, que nous étions capables d'abaisser nos barrières physiologiques et mentales, alors nous pourrions avoir accès à un potentiel caché. On en entend parler. Pour moi, c'est la première personne dont j'ai pu me dire, tiens, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'approche scientifique dans une démarche qui permettrait de reconnecter ces différents points. Étant naturellement très très rétif à tout ce qui est New Age, formes de développement personnel qui sont absolument pas ancrées dans une réalité, enfin voilà, j'ai un aspect plutôt scientifique, un peu nerd à la base. Moi, ce que j'ai adoré chez Wim, c'est ce mélange de personnages fantasques, hyper charismatiques, fou furieux, et en même temps l'humilité dont il fait preuve quand il dit voilà, moi je fais mes expérimentations, je suis autodidacte, maintenant je vais laisser des gens avec des lunettes, des blouses blanches dont c'est le métier, expliquer ce qui se passe, mettez-moi des électrodes, faites vos tests et plaquez par-dessus l'explication scientifique quant à ce qui est en train de se passer dans ce que je fais.
Alors il a quelque chose qui est très fort en lui aussi, c'est cette volonté de transmettre. Oui. Donc, il fait des stages. Tous les deux, vous avez fait plusieurs stages avec lui. Quand on arrive et qu'on vient, je dirais, d'un mode de vie, vous habitez Narbonne, un mode de vie urbain. Quand on arrive et qu'on se retrouve, alors je ne sais pas où se passaient les stages. Quand on arrive et qu'on se retrouve dans le froid, qu'est-ce qu'il vous fait faire?
Eh bien, en sortant du car, le fait de le voir pieds nus dans la neige, comme ça met tout de suite un petit choc.
Vous étiez où?
En Pologne. Voilà, ça se passe à la frontière entre la Pologne et la Tchéquie, nos stages.
C'est le lieu historique. Quelle température dehors ?
On est sur du moins 10. Voilà. Et puis après, il faut ajouter les petits vents, les températures ressenties, toutes ces choses-là. Mais bref, en fait, tout ça, c'est vrai qu'on s'en fait une montagne, mais on se rend compte très vite que 0, moins 5, moins 10, moins 15, ça a très très peu d'importance finalement, parce que il faudrait plutôt se demander, vous êtes plutôt en forme, déprimé, enthousiaste aujourd'hui, puisque c'est l'état mental dans lequel on est qui va réellement, à 95%, conditionner notre ressenti de cette température-là, pas du tout les conditions extérieures.
Qu'est-ce qu'il vous fait faire ? Vous arrivez, vous descendez du car, il fait moins 10, il est pieds nus dans la neige, il vous dit quoi ?
Il nous dit « Welcome ! Let's go !»
Voilà.
Et donc, voilà, on pense qu'il va y avoir une espèce de progression pédagogique lente et mesurée, extrêmement didactique, qui va nous amener à la fin du stage, peut-être, à aller se baigner dans l'eau glacée. Et donc, en gros, il nous dit « Enlevez vos fringues, on descend, et puis on va se baigner dans les cascades d'eau glacée. » Et voilà. Et en n'en faisant pas un plat. Et bon, pour lui, ça lui semble tellement naturel, il a tellement de caresses qu'on se dit « Ok, on va essayer ça. » Et on y va. On est, je dirais, plongé dans le bain tout de suite.
Alors on va parler bien sûr de cette façon que Wim Hof, The Iceman, a d'apprivoiser le froid, qu'il vous a en quelque sorte transmise, sachant qu'en France on voit ça de très très loin, mais que dans des pays comme la Russie par exemple, les enfants courent dans la neige tout petits, voire ce sont leurs parents qui les roulent comme ça dans la neige, histoire de renforcer leur défense immunitaire. Pour nous ce serait totalement impensable.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Le pavard, le bonnet, ta gueule.
Qu'est-ce qu'il a dit là?
Il demande si vous n'avez pas froid.
Froid, moi?
Jamais.
Ta mère est mon asile.
Un petit bijou de réclame, on peut utiliser le mot réclame. C'était la pub, donc les vêtements anti-froid. C'est sûr que c'est pas du tout le cas de Wim Hof, puisqu'alors lui, il passe son temps, sa garde-robe est assez rudimentaire, un caleçon et puis des tongs. On parlait des enfants en oui. Russie, que les parents habituent au froid, c'est-à-dire qu'ils les font rouler, ils jouent dans la neige, ils les font rouler dans la neige avant l'école. Et Jean-François Tuel, c'est quelque chose que vous faites avec vos propres enfants, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils ont l'habitude du froid aussi.
Ben maintenant, oui. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule. J'ai arrêté avec le discours anxiogène de « remets un pull, remets un bonnet, tu vas attraper froid ». J'ai compris qu'on n'attrape pas froid pour commencer. Et ensuite, j'ai compris que si on laisse faire les enfants, ben, d'eux-mêmes, ils sentent ce qui est bon pour eux. Ils sont beaucoup dans le ressenti et ils vont vers le froid parce qu'ils savent qu'ils sont en train de construire leur défense immunitaire. Donc plutôt que leur flinguer leur défense immunitaire en essayant de les surprotéger, maintenant, je les incite au contraire. Alors en passant par le jeu, sans jamais forcer. Mais c'est vrai que par exemple, mon plus petit Noah, qui n'a pas encore 4 ans, le jour de mon anniversaire, pour me en cadeau, je pense. Il a décidé de venir dans le congélateur avec moi, voilà, à 0 degré. Alors, il est assez vite ressorti quand même avec une petite larme. C'était un petit peu violent. Mais mon plus grand, par exemple, qui a toujours eu des problèmes d'angine à répétition, d'asthme, Nicky, qui a 6 ans, je pense notamment parce qu'il est très fier de montrer à papa qu'il le fait, mais aussi parce que ça lui fait du bien. Lui, il n'est plus qu'à la douche froide maintenant, systématiquement. Donc après celui du milieu, Kim, lui, il refuse. Donc il a parvenu à maintenir complètement son identité propre sans se laisser influencer par le groupe. Et il m'envoie bouler quand je lui propose. Donc voilà, chacun son truc, quoi.
Ça a été une solution aussi pour vous, à Naël, puisque vous aviez depuis très longtemps une allergie au soleil. Et vous dites qu'après un seul bain d'eau froide, l'allergie, elle a disparu. Alors je sais pas si c'est le pouvoir de l'esprit sur le corps, mais c'est vrai que pour vous, ça a fonctionné de façon très efficace.
Alors c'était pas du tout mon objectif, c'était pas du tout ce que je recherchais. J'imaginais pas en fait que en sortant d'un bain glacé, d'un coup je puisse ne plus être allergique. Ça faisait vraiment partie de mon fonctionnement quotidien. Pourtant effectivement, après mon tout premier bain glacé, donc j'ai fait les stages.
Vous êtes sortie du bus et on vous a mis dans l'eau.
Alors pas tout à fait. J'ai fait ces stages là en Pologne avec randonnée dans la neige, aller dans l'eau par -10, etc. Mais en fait mon tout premier stage avec Wim, c'était en Espagne en plein été au mois de juillet, Sierra de Guara, donc il faisait très très chaud. Et donc on faisait livrer en fait des camions remplis de glaçons pour faire des bains glacés tous les jours. Donc on remplissait la piscine de glaçons. Et donc moi j'avais préparé juste à la sortie du bain ma crème solaire. J'étais vraiment quelqu'un qui pouvait pas rester quelques instants au soleil sans faire des réactions vraiment allergiques, la peau très rouge qui gratte, c'était insupportable. Donc c'était jamais grave, mais c'était vraiment très difficile. Et à la sortie de ce premier bain, alors je saurais difficilement expliquer comment je l'ai su, mais d'un coup il y a eu donc cette voix qui me disait vite prends ta crème solaire, j'avais tout ce qu'il fallait pour en mettre, et l'autre qui m'a dit attends un petit peu, t'as peut-être pas besoin, voilà, cette espèce d'intuition. Et j'ai fait quelques tests dans les jours qui ont suivi. Je me suis aperçue que j'avais plus besoin des médicaments entre guillemets que je prenais, c'était des auto-bronzants en fait, hein, ouais. Qu'on nous conseillait. Il n'y a pas vraiment de médecine contre l'allergie aux UV. J'ai arrêté tout ça et j'ai arrêté de mettre de la crème solaire. Voilà, donc c'était pas ce que je recherchais, ça s'est passé. Et ça, on voit assez souvent dans les pratiquants de la méthode Wim Hof des personnes qui ont des allergies ou d'autres types de maladies auto-immunes qui disparaissent comme ça. Donc, on va pas tous être égaux forcément face à ça. Mais c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. Ça revient tout le temps, hein, dans les témoignages de stagiaires qui ont.
Question pour tous les deux. Alors là, évidemment, parce que l'Espagne, il faisait quand même des conditions climatiques un peu plus agréables. Mais revenons à la Pologne, -10. Donc là, vous vous retrouvez très rapidement immergé dans de l'eau froide. Est-ce que cette méthode accepte l'échec? Est-ce que vous avez vu autour de vous des gens qui se reconnaissaient pas du tout dans tout ce qu'on est en train d'évoquer là et qui se disaient c'est pas pour moi? Est-ce que Iceman accepte qu'il y ait des gens sur qui ça ne marche pas? Est-ce que c'est quelqu'un de tolérant ou il a décidé
oui.
d'être...
Bien sûr. Alors, moi, j'ai jamais vu de gens vraiment qui ne voulaient pas y aller. Par contre, nous, on a toujours insisté dans la formation de formateurs, hein, finalement, à nous dire il y a des gens qui peuvent effectivement avoir un rejet, vouloir sortir. On travaille vraiment... C'est très important que les gens soient en sécurité à la fois physique et émotionnelle aussi. Après, on fait tout en fait. Déjà, les gens viennent au stage pour ça en général. On fait tout pour qu'ils puissent le faire en sécurité, en confiance. Donc c'est vrai que moi, j'ai jamais vu personne échouer. Mais très clairement, on ne force pas quelqu'un à aller dans l'eau glacée. C'est très clair. Par ailleurs, il y a des contre-indications. il y a quand même certaines personnes à qui on va demander de surtout pas aller s'immerger dans l'eau glacée. Ça va être le cas des femmes enceintes, de personnes épileptiques.
Il y a quand même un encadrement parce que là vous n'êtes pas en train de dire tout le monde peut le faire et si on est effectivement il y a des fragilités ou il y a des gens pour qui c'est pas du tout fait quoi, pour qui c'est pas.
Je pense que presque tout le monde peut le faire. c'est oui et non la réponse.
Alors, on a toujours l'envie de surtout commencer à lister tous les cas pour lesquels ça pourrait être dangereux, mais là au contraire ce qu'on apprend à voir c'est que on est beaucoup trop conservateur. À commencer par les enfants, voilà, les enfants surtout pas, mais enfants de 3, 4, 5 ans si.
Alors la grande théorie,
il faut être prudent, être bien encadré en fait, et où y aller progressivement quoi, tout simplement. C'est le plus important.
La grande théorie de Wim Hof, c'est de dire que sa méthode permettrait de renouer avec le système de défense que l'on avait au temps du paléolithique, c'est-à-dire que là, se défendre contre le froid, se défendre contre les dangers, c'était une question de vie, enfin de survie. Que les modes de vie que l'on a adoptés depuis, forcément, nous ont coupé un peu de cet ADN sauvage que l'on avait, et l'idée c'est de dire mais on a tous en nous cette capacité effectivement à lutter contre les agressions, puisque lui il dit, si on sait lutter contre le froid on est capable de réagir contre toutes les formes d'agression, puisque les mécanismes vont être les mêmes. Qu'est-ce qui se passe quand on est plongé dans un trou d'eau froide? Qu'est-ce qu'on met en route pour s'en sortir? Anaëlle?
Alors, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un pic de production d'adrénaline. Donc, notre système endocrinien va arrêter un petit peu tout le travail qu'il fait par ailleurs. Et on va produire en masse de l'adrénaline au départ pour que le corps puisse très rapidement produire de l'énergie. Hein, ça permet aux cellules de produire de l'énergie très très vite. Ça accélère le métabolisme. Et en fait, ensuite, au bout de 1 minute 30, 2 minutes, ça va dépendre des gens. À un moment, on a le mécanisme inverse qui s'installe. On va se calmer. On va passer d'un haut niveau de stress à un niveau de beaucoup plus calme finalement à l'intérieur du corps. Donc on s'entraîne à passer du système nerveux sympathique au parasympathique, au niveau de stress à niveau de calme, idem en termes de production d'adrénaline. Enfin, il y a plein de choses en fait qui s'arrêtent et qui peuvent repartir ensuite en mode sans échec à l'intérieur du corps finalement.
Jean-François,
moi ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au-delà des phénomènes qui se déroulent par eux-mêmes, c'est que l'immersion dans le bain provoque un grand choc de stress qui atteint notre système nerveux. Et on découvre, au travers de ces exercices qu'on peut pratiquer dans le froid extrême, qu'on a la possibilité d'influencer ce système nerveux. C'est-à-dire qu'il existe une porte d'entrée quasi magique qui nous permet de reprendre la main et le contrôle sur ce qui est en train de se passer, qui normalement ne devrait pas être le cas, c'est la respiration. Et en se reconnectant à sa respiration, on réalise qu'on a les moyens de réinfluencer la façon dont tout notre corps et tous nos processus physiologiques vont réagir. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est de
Il faut respirer comment?
On respire de façon consciente, en fait.
On va commencer par respirer consciemment.
Voilà, et insister sur l'expire quand on est dans le froid, pour calmer le corps. Voilà. Donc vraiment être très conscient de sa respiration et bien insister sur l'expire pour détendre le système.
Le froid, comme tous les autres phénomènes de stress aigu, nous vole notre respiration. Et on part sur une respiration très haute qui n'est plus contrôlée. Si on apprend à reprendre le contrôle sur cette forme de respiration, notamment en se focalisant sur la longueur de nos expirations, il y a une boucle qui se crée, une différence de cause-conséquence, où en répliquant une respiration calme, on arrive à influencer tout notre métabolisme pour le rendre plus calme lui aussi et réactiver nos fonctions cognitives supérieures. Voilà. Et on en maîtrise.
Vous dites affronter le froid et le vaincre, c'est reprendre la main sur notre corps. Vous dites, j'ai la main pour tolérer un niveau d'inconfort. Et alors vous allez nous expliquer, nous aussi, essayer le test de la bassine, puisqu'on n'a pas de congélateur. Si on veut essayer le test de la bassine, comment s'y prendre pour que l'expérience soit concluante?
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Et on est cet après-midi avec deux adeptes du grand froid, Jean-François Tual et Anaëlle Gombert. Alors revenons donc à la Pologne, il fait moins 10, donc premier exercice que l'on vous fait faire, on vous plonge dans de l'eau. Automatiquement, nos petits capteurs thermiques qui sont à la surface de la peau disent au cerveau, oulala, il faut que tout le monde se concentre pour créer tout de suite de la chaleur. Et en fait, d'accord, je me suis plantée sur un épisode. Ils vous disent quand même qu'il faut à un moment donné vivre avec ce grand froid là.
Barre-toi.
D'accord.
C'est ça qu'on apprend à faire, c'est à ne pas écouter ce message capricieux du corps pour lui dire non.
sors de l'eau tout de suite.
Ne fais pas de caprice, tu as en fait les moyens de gérer à partir du moment où on rétablit une forme de dialogue un peu plus mature, tous les deux. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire, c'est arrêter d'avoir cet enfant capricieux qui nous dit et qui nous hurle de sortir de là parce que c'est insupportable et qui nous fait des projections intellectuelles sur le fait que c'est intenable, nous allons mourir. Ça, c'est la première sensation. Voilà, c'est pas la chaleur, la première. Mais nous, on apprend au travers d'une reprise de contrôle de ces mécanismes à être capable de réinstaurer un dialogue plus cool sur lequel on va dire non, je vais me calmer, mieux respirer et je vais me rendre compte petit à petit que je suis capable de libérer l'énergie qui va être nécessaire à la production de chaleur plutôt que la dépenser bêtement en panique, qui est une activité extrêmement consommatrice et énergivore.
Alors vous avez fait deuxième exercice, c'est d'ailleurs tous ceux qui ont regardé à la télévision, je sais plus quel jour c'était juste la semaine dernière, les fabuleux pouvoirs de notre corps. Donc là on vous voit tous les deux courir, en fait vous escaladez une montagne, donc vous êtes en train sur un sentier et là on sait qu'il fait moins 10 et vous êtes alors en short, vous Anaël vous avez une sorte de petite brassière soutien-gorge et vous courez comme ça et je pense que je sais pas combien de temps dure l'exercice. Mais au moins 2 heures,
deux ou trois heures, je pense. Ouais.
2-3 heures.
Franchement, quand on vous regarde, on se dit que vous êtes complètement fou. Hein. Je me suis dit. Alors, j'étais sur mon canapé avec un plaid et je me suis dit, mais ils sont barrés. Qu'est-ce que ça vous apprend sur vous? Quel est le bénéfice pour aller grimper sur une montagne en tongs ou en petites chaussures et en brassière et en maillot de bain?
Alors
allez-y, Joseph. Anaël.
Ok, les bénéfices sont nombreux, mais je pense que le premier bénéfice qui me vient à l'esprit, c'est le calme intérieur, le calme des pensées, la joie de vivre. C'est vrai qu'on était avec un groupe, on voit très vite les visages qui changent, les regards qui changent, des sourires d'enfants chez tous ces adultes qui se promènent en petite tenue par moins 10 degrés et qui escaladent une montagne. Comment dire, une fois qu'on a réussi à transformer cette idée, cette croyance que finalement le froid est mauvais et qu'on arrive comme ça à grimper la montagne et à sentir le froid parce qu'on le sent, le froid sur la peau évidemment, hein, on n'est pas anormaux, et qu'on arrive à se détendre et à complètement lâcher prise vis-à-vis des petits signaux qui peuvent nous être envoyés par le corps, bah là il y a un immense calme qui se fait à l'intérieur. Je sais pas comment tu l'as vécu toi, Jean-François, mais pour moi c'était le calme des pensées, pensées complètement apaisées, même longtemps après mon retour dans les semaines qui ont suivi. Si j'étais concentrée sur une tâche, j'étais extrêmement concentrée, mon cerveau était vraiment très très focalisé. Et puis dès que je m'arrêtais, c'était le calme absolu. Moi c'est vraiment la première chose que j'en retire. Si je dois citer qu'une chose, c'est ce calme et cette paix dans les pensées.
Est-ce que votre corps, tous les deux, a besoin de cette piqûre de rappel de froid pour se remettre dans le même état de quiétude? Ou est-ce que simplement le ressenti du froid, c'est-à-dire le souvenir du froid tel que vous l'avez vécu, suffit?
Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai réussi à ancrer ça justement. Un épisode comme Sniezka, comme l'escalade de cette montagne, il nous marque émotionnellement. Et dans la vie de tous les jours, avec à partir de quelques petites techniques d'ancrage, répéter un geste, se reconnecter à une sensation, à un son, ça nous permet de rebasculer. Enfin, je pense que toi aussi, ça nous permet de, face à une tâche qu'on soit au quotidien dans les embouteillages ou en situation stressante lors d'un rendez-vous, d'un entretien, il suffit de quelques secondes pour se rebasculer en mode. Remets-toi dans l'état d'esprit dans lequel tu étais sur cette montagne. Il y avait cette agression, ce stress constant partout autour de toi. Et tu avais un sentiment de liberté, de quiétude, de facilité. Et voilà, le cerveau a cette capacité à aller chercher cet état ressource et à le remobiliser à l'envie quand le travail a été bien fait.
C'est ça, une fois qu'on l'a connu, c'est beaucoup plus facile de le retrouver même quand on n'est pas dans les mêmes conditions. Ce qui n'empêche pas d'avoir envie, en tout cas pour ma part, de continuer les bains glacés, de continuer à m'exposer au froid.
Tous les jours aussi
pour les bénéfices physiologiques, en fait.
Vous arrivez à le faire tous les jours aussi?
Pas tous les jours, non. Moi, j'habite en ville, j'ai pas de congélateur dans mon jardin.
Dis donc, Narbonne, c'est la ville aussi, ça
une
va.
Une bassine. Et la bassine, est-ce que vous ressortez? Je pense que vous devez être tous les deux des clients privilégiés d'Allo Glaçon, non vous...
Ah, et moi, ils m'aiment bien, du côté de Béziers, c'est parfait.
En Bretagne, c'est compliqué de se faire livrer des glaçons à domicile, je m'en suis aperçue. C'est beaucoup plus facile à Paris. Voilà, j'avais animé un stage à Paris, c'est plus facile de se faire livrer des glaçons. Mais en tout cas, oui, on connaît bien les lieux où on peut se
procurer. Est-ce que vous avez besoin, d'ailleurs, plusieurs fois dans la semaine, de vous remettre les pieds dans une bassine avec des glaçons pour vous sentir bien? Est-ce que, du coup, pour vous, le bien-être est associé au froid?
Non, pas forcément. Moi, je dirais que ça peut m'arriver de vouloir reprendre une douche froide de 10 minutes le soir, par exemple avant de me coucher, ou prendre un bain glacé. Quand je suis dans une période particulièrement difficile ou dans une situation où je sais que ça va être plus difficile de dormir, moi je me déplace beaucoup. Si je suis dans un hôtel, que je m'aperçois que c'est un peu bruyant, je suis pas habituée à cet environnement bruyant, ça va m'aider à dormir, par exemple de prendre un bain glacé ou une douche froide, parce que dans les hôtels, voilà, on prend pas de bain glacé. Et après ensuite c'est plus un loisir presque, j'ai envie de dire. Moi, fin janvier, je suis partie au ski avec des amis. Il y avait plein de neige sur le balcon. J'ai pas pu résister à l'occasion de leur proposer qu'on prenne de la neige et qu'on fasse un bain glacé, quoi.
Et alors ?
Et alors, bah, c'était sympa. Donc, pour trois d'entre eux, c'était vraiment leur premier bain glacé. Et ils ont bien aimé.
Il faut quand même leur donner le mode d'emploi. Hein,
parce bien sûr. Oui,
parce que là, on est en train de dire la neige, on peut se rouler dedans, mais il faut simplement expliquer, parce que là, on peut pas faire n'importe quoi. Et il y a quand même un encadrement à mettre en place. Il faut leur donner des outils de respiration, par exemple, pour réussir à...
Il y a plein de choses à faire. Et je pense que tout le propos des stages qu'on propose, c'est d'équiper les gens pour qu'ils puissent faire face à ça. Mais après, je dirais que, sincèrement... On se rend compte avec la pratique que si les gens avaient pleinement confiance en eux et étaient conscients de ce qu'ils sont capables de faire, finalement ils pourraient se passer de cette préparation et s'immerger sans aucun problème. Donc ce qu'on fait finalement, c'est un ensemble de protocoles qui leur permettent de réaliser qu'ils ont la main sur le fonctionnement de leur organisme, de prendre conscience et confiance en eux sur ce qu'ils vont être capables de faire, et ensuite d'avoir ancré en amont, au moment où ils vont s'immerger dans la glace, quelques petits réflexes qu'ils vont pouvoir mobiliser facilement parce qu'ils seront tout de suite disponibles dans la mémoire vive. Et ils se rendent compte que n'importe qui, voilà, moi j'ai stage après stage, j'ai déjà fait une douzaine de stages depuis que sur les deux derniers mois, tout le monde y arrive.
Un stage tous les combien vous faites ?
J'en fais 2-3 par semaine.
Ah, quand même.
La vie devant soi, Isabelle Quenin sur Europe 1.
Et pendant le titre d'Offenbach, on est en train de se remémorer certains 31 décembre que j'ai vécu, qui était un petit peu... Alors, j'avais vu ça comme spectatrice. Et alors, surtout, le truc là qu'il faut retenir, ne jamais aller se rouler dans la neige quand on est en état d'ébriété. Là, on est complètement d'accord. Hein. L'alcool, ça fait faire des conneries et ça, c'en est une belle. Hein. Sûr. Donc, très clairement, si on veut se renseigner, il y a 100 000 adeptes à travers le monde de la méthode de Ziaïsman. Donc, où est-ce qu'on peut se renseigner si on a envie de faire aussi un atelier, un stage? Vous avez mis au point une méthode, un site, icemind.fr.
Icemind, c'est ça, puisque moi je m'oriente surtout sur utiliser le froid pour toute sa force métaphorique et comme un outil de développement de notre force mentale. Et donc au travers de plein d'activités différentes, des activités de découverte de la méthode Wim Hof sur une demi-journée, mais aussi des week-ends immersifs où on va utiliser cette méthode Wim Hof en parallèle à des outils de préparation mentale, ben j'apprends aux gens à prendre le contrôle sur l'ensemble de leur processus émotionnel, physiologique, et à découvrir à quel point ils peuvent accéder à la réalité de leur potentiel et avoir une vie juste beaucoup, beaucoup plus sympa, beaucoup plus marrante, beaucoup plus libre quand on commence à justement ne plus avoir peur de ces formes de stress parce qu'on se rend compte qu'on est capable de les dominer. Donc c'est sur icemind.fr. Il y a
Vous êtes devenus tous les deux complètement accro du froid. Hein.
Complètement accro.
Vous enchaînez les stages.
Ah ouais, j'arrête pas.
Anaël, pareil ?
Donc pour moi, oui, c'est si les gens souhaitent me contacter pour les stages, ça va être vivregrand.com. Voilà, donc c'est un site où on parle de d'hyper-performance mentale et physique, vivregrand.com. Et également, les gens peuvent me retrouver sur une autre activité, donc là je ne vais pas y parler de froid, sur prestolecture.com également.
Alors ce qui est drôle, c'est que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins entre l'hyper-performance, c'est-à-dire les conditions de vie extrêmes, il fait moins 10, j'escalade une montagne, où l'eau est à 0 degré et je plonge dedans, et en même temps le développement personnel, vous êtes un peu à la croisée du chemin.
Oui, mais c'est en fait, moi par exemple, la première chose qui m'a attiré dans la méthode, c'est l'hyper-performance. En rentrant de Pologne, j'ai commencé à pousser, vouloir tenir voilà, 15, 20, 25 minutes dans le bain glacé, ce que j'ai fait, c'était très intéressant, mais au bout d'un moment, c'est tout ça pour ça, finalement, rester dans le froid longtemps, d'accord, mais bon, ça a finalement pas tant de bénéfices que ça. Et quand j'ai commencé à changer mon fil d'épaule et à voir ça comme un outil de développement personnel et comprendre ce que je pouvais, grâce au froid, grâce à cette métaphore absolument implacable, comprendre en termes de stabilité émotionnelle, de lâcher prise, de contrôle de ma réaction au stress, de maîtrise de mes anxiétés, de courage, de prise de décision. J'en ai fait un outil qui me permet maintenant, chaque matin, quand je me lève, de décider de ce sur quoi je veux travailler et d'aller utiliser les techniques de respiration et d'exposition au froid pour très rapidement parvenir à ça.
Le froid, pour vous, c'est un peu un support de méditation.
C'est plus que ça. C'est pour moi un maître qui m'apprend au quotidien tout ce que j'ai toujours voulu savoir en termes de développement personnel, parce que c'est très concret, c'est implacable, c'est pas des tartes à la crème, c'est pas théorique, c'est on applique dans le bain glacé et on souffre ou on a du plaisir en fonction d'à quel point on maîtrise le sujet.
Merci à tous les deux, je vous propose de rester avec moi pour accueillir. Alors elle, quand elle met des tongs, c'est surtout avec un pareo et une fleur de tiare. Dans un instant, Anne Cazobon.
La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin.
Elle aussi s'est mesurée au Kilimandjaro, mais on en parlera dans une autre chronique parce qu'aujourd'hui, Anne Cazobon, vous avez décidé de nous parler de nos petits travers et je me demande si 4 minutes, ça va suffire.
Mais oui, ça vous est tous déjà arrivé. Allez, ne mentez pas, on est pareil, vous et moi, on est entre nous. Il y a cette collègue au bureau qui hurle quand elle est au téléphone. Il y a ce voisin qui met très fort la musique le dimanche matin. Il y a votre mari qui est toujours en retard. Il y a ce copain qui ment comme il respire. Il y a cette salariée qui joue les pique-assiettes et qui gratte tout ce qu'elle peut gratter, des places de ciné, du babysitting gratuit, des blocs de post-it. Bref, il y a tous ces gens qui visiblement font tout pour vous énerver. Ça ressemble à un complot pour vous faire craquer, ou en tout cas, c'est ce que vous croyez. À moins que cela ne vous donne juste une magnifique occasion de leur tailler un maxi-short, de les rhabiller pour l'hiver, dans leur dos bien évidemment. Comme ça vous énerve, comme ça vous dépasse, vous tapez allègrement du sucre sur le dos au téléphone avec votre meilleur ami. Évidemment, personne ne sort vraiment grandi de cette conversation, et surtout pas vous.
Mais qu'est-ce que ça veut dire de nous quand on est énervé par le comportement de l'autre ?
Eh bien, tout simplement que nous avons ce même travers à l'intérieur, mais que nous ne le regardons pas en face. Peut-être que c'est une facette d'ailleurs de notre personnalité qui ne s'est pas encore révélée. Parfois, on est agacé pendant des mois par le comportement d'un ami avant de se voir agir exactement de la même manière. Peut-être aussi que c'est quelque chose que l'on ne s'autorise pas à faire. Je fais tout pour ne pas hausser la voix au bureau parce que nous sommes nombreux dans cet espace de travail, alors que ma voisine de bureau, elle, hurle au téléphone et nous fait partager chacune de ses émotions de la journée. Peut-être qu'elle m'agace parce qu'au fond, moi aussi, j'aimerais m'autoriser à parler à voix haute ou à partager ce qui m'arrive. Ou alors cette amie qui, par exemple, est en permanence en train de demander de l'aide pour son déménagement, pour se faire véhiculer, pour se faire dépanner, elle peut m'énerver en me renvoyant que moi, je n'ose pas embêter les autres en leur demandant de l'aide. Et ça m'énerve de me rendre compte qu'il en est de ma propre responsabilité d'oser demander de l'aide. Mais aussi que j'ai le droit de lui dire non alors que je m'en donne pas vraiment la permission parce que j'ai peur de passer pour la méchante ou encore de ne pas être aimée. Celle qui peut nous aider là-dedans, c'est la québécoise Lise Bourbeau. Vous savez, c'est un auteur de développement personnel très connu qui s'est notamment concentré sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et elle nous propose par exemple de faire une liste de tout ce qui nous dérange chez quelqu'un en particulier. Alors reprenons cette collègue. Je n'aime pas son manque de politesse, je n'aime pas son manque de respect, je trouve que certaines de ses réflexions sont vraiment stupides, j'aime pas le son de sa voix, et une fois que le tableau est comme ça bien noir, vous allez pouvoir commencer petit à petit à accepter que chacun de ces aspects fait partie de vous-même, même les plus difficiles à accepter et à regarder, et à vous donner le droit d'être ou de vouloir être ainsi. Vous allez enfin pouvoir commencer à regarder le bon côté de ces facettes de votre personnalité que vous considérez comme inacceptables, et vous allez enfin pouvoir vous donner la possibilité d'exprimer certains de ces aspects que vous avez relevés chez d'autres. L'idée, c'est vraiment de s'aimer soi-même davantage, d'aimer ces facettes moins reluisantes, d'accepter en fait votre vulnérabilité dans certains comportements. Alors comme je vous vois tous faire une drôle de tête, oui je vous vois tous derrière votre transistor, la bonne nouvelle c'est quand même que ça marche également dans l'autre sens, que tout ce que vous admirez chez les autres, cet ami qui parle si bien en public, ce collègue qui a fait de super chronos au marathon, cette cousine qui a vraiment une allure de star quoi qu'elle mette, ce copain qui réussit tout ce qu'il entreprend, tout cela, oui, tout cela, si vous admirez ces parties-là chez l'autre, c'est aussi que quelque part, ces facultés sont en vous, ces potentiels sont bien cachés à l'intérieur et qu'il ne tient qu'à vous de les révéler au grand jour pour les offrir au monde.
Merci Anne, merci à nos deux invités Jean-François et merci à Anaëlle. Avec vous, on a vu le froid sous un autre jour. On se retrouvera demain et on sera en direct du Salon de l'Agriculture et nous recevrons 4 agricultrices qui raconteront leur quotidien et pourquoi elles ont choisi de travailler au contact de la nature et des animaux. Nous serons Pavillon 1, donc venez nous voir si vous y êtes, on sera ravis. Puis pourquoi pas, ce sera une excellente destination si vous avez envie de nous y retrouver. retrouver à 17h aujourd'hui, vous retrouvez Thomas Thoroude et toute son équipe pour l'émission Foot d'Europe 1, il n'y a pas péno. Mais tout de suite, on retrouve notre compteur maison, Christophe Ondelat, qui est un peu bloqué sur l'année 1978. Bonjour Christophe.
Bloqué, il y a de quoi. Bonjour à vous. Je vais réveiller de vieux souvenirs. 40 ans, 1978, la catastrophe de l'Amoco Cadiz, ce pétrolier qui s'éventre à 2 km des côtes bretonnes et déverse 220 000 tonnes de pétrole brut sur les plages et sur les rochers bretons.
Excellente émission, Christophe.